Curieuses et curieux des ondes, bienvenue. Il est des mystères dont les multiples traces, quoique infimes, permettent avec le temps et la patience de lever le voile. Ainsi, des petits messages dessinés sur un bout de papier, quelques mots enregistrés, des signaux de lumière et se lève le voile d'une question essentielle. Où est Sophie ce mardi? En fait, au fond de son lit avec Covid, invité des plus indélicats. Courage Sophie donc, si tu nous entends. Il est d'autres mystères comme des traces dans le sable, des chemins de cailloux, de pierres agencées, qui ne sont pas des failles, puisqu'au milieu du désert. Des structures immenses et fascinantes, de l'Arabie Saoudite au Kazakhstan, qui ressemblent à une jolie fleur qui courbe la tête, ou à un cerf-volant et sa longue traîne. Mais qu'est-ce donc? Pour les comprendre, des archéologues de multiples spécialités grattent la terre, scrutent et analysent, et pour que nous vivions la même aventure que cette joyeuse équipe, un dessinateur guidé par une archéologue qui a balisé son chemin de mots nous emmène case par case à la poursuite de ce même mystère. Mais où sommes-nous? Dans les studios de Fréquence 7 et avec Séverine Laliberté, archéologue et auteur de la bande dessinée « Les traces des archéologues » parue en janvier aux éditions Steinkiss. Bonjour Séverine.
Bonjour, Fréquence 7.
Et bonjour Clara.
Salut.
Et Sylvain.
Bonjour.
Salut. Nous parlerons de la bande dessinée tout à l'heure avec Séverine. Et maintenant, c'est Clara pour l'agenda de quelques activités culturelles dans notre Sud-Ardèche.
Et on débute cet agenda avec une projection de cinéma itinérant proposée par la Maison de l'Image à Valgorge avec le film « Enfant phare » d'Emmanuel Courcault. C'est ce soir à 20h30 à la salle La Pourrette à Valgorge. Et on continue avec le village documentaire basé à Lussas qui abrite près d'une quinzaine de structures dont la majorité œuvre dans le domaine du film documentaire. Ils organisent leur porte ouverte et une crêpe partie, miam, ce soir de 17h à 20h à Lussas. Une occasion de visiter l'auditorium de Tinc, les salles de montage et de tournage de l'école documentaire, la maison du doc, et tout cela en dégustant une crêpe. Les portes ouvertes du village documentaire de Lussas, c'est ce soir de 17h à 20h. On continue cet agenda avec l'ouverture de la deuxième édition du Festival de conférences gesticulées en Sud-Ardèche qui a lieu sur 4 jours à Rocle et Joyeuse. 6 gesticulantes et gesticulants de la région seront là pour partager leur vécu mêlé à de l'analyse théorique pour livrer une critique sociale incisive, mêlant émotion, magie, humour et réflexion politique. Ça commence ce soir à Rocle avec un repas partagé à 19h suivi de la conférence gesticulée « Une autre histoire » de Jean-Fils Madja à 20h. La suite du festival aura lieu, elle, à la salle de la Grand Fond à Joyeuse les 14, 15 et 16 février. Pour réserver et avoir des informations supplémentaires, vous pouvez aller sur le site Allo Asso. Les animations urbaines à l'Agora du Champ de Mars d'Aubenas continuent avec demain de 14h à 17h un nouvel atelier de découverte des instruments africains avec la sauce pimentée. Pour retrouver le programme des animations urbaines, c'est sur le site de la ville d'Aubenas. Et on termine cet agenda avec 2 séances de cinéma suivies d'un échange au cinéma Le Navire d'Aubenas. Donc la première aura lieu demain mercredi en partenariat avec l'association Anticor, c'est l'association anticorruption française, qui propose à 18h le documentaire de Yannick Kargoa, Personne n'y comprend rien. Une enquête qui permet de mieux comprendre l'affaire autour de Nicolas Sarkozy et des financements libyens. Et puis jeudi 13, toujours à 18h, ce sera le film Apprendre de Claire Simon qui sera suivi d'une rencontre avec le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles d'Ardèche. Un documentaire sur la vie d'une école élémentaire d'Ivry-sur-Seine et une vision positive de l'éducation qui peut faire du bien.
Et c'est quand les crêpes? Bon, d'accord. Pas penser qu'à manger. Merci, Clara.
Est-ce que tu aurais un petit peu faim, Marie?
Non, bah, c'est midi, hein, quand même, en même temps. J'ai oublié mes abricots dans le bureau. Bon. On se retrouve après la pause musicale avec Séverine et Clara aussi. Et le moment musical est choisi par Sylvain, c'est Sam Kinson du groupe AIC. Le micro, j'ai tapé la feuille. Séverine Laliberté est archéologue et auteure de la bande dessinée et ancrée en Ardèche, où elle fait partie du labo Archéorien du CNRS. C'est ça?
Oui, tout à fait.
Ok, super. Sur les traces des archéologues, c'est le titre de la bande dessinée et c'est chouette. Parce que ces archéologues sont, eux, sur la trace d'immenses dessins de cerfs-volants qui jalonnent un grand nombre le désert oriental. Le désert oriental, non, il n'y a pas de chamelle dans le studio de fréquence, excusez-moi. Tous se ressemblant dans leur construction sur une structure de terrain et leur orientation, et tous visibles depuis le ciel, ce qui est quand même étrange, parce que c'est ancien ces choses-là. Séverine, tu nous expliques la bande dessinée et ce qu'elle explique aussi? Le tiroir dans le tiroir.
Le tiroir dans le tiroir.
Vas-y.
Donc, ces structures, c'est des structures qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long, donc qui sont en pierre, et qui sont composées de deux très longs murs, donc c'est ceux-là qui sont très très grands, qui arrivent donc en entonnoir sur un grand enclos. Et ces enclos, souvent, ils ont des petites pointes, et au bout de ces pointes, il y a des petits cercles de pierre. Donc voilà, voilà ce qu'on trouve dans les déserts.
Et voilà ce qu'on voit et qui ressemble soit à une grande fleur, soit à un cerf-volant.
Ouais, il y en a même qui ressemblent un peu à des brocolis.
Des brocolis.
Ouais, vous verrez, il y en a. Et d'autres à des pantalons. Et il y en a, enfin voilà, avant de faire une typologie vraiment scientifique, on a trouvé quelques petits noms comme ça, qui étaient assez drôles. Qui tournent beaucoup autour de la nourriture, parce que nous aussi, on a très faim sur le terrain. Et voilà. Donc, cette BD, elle raconte vraiment cette recherche qui a été réalisée pendant plus de 15 ans, là. On est à la 15e année de recherche sur les kites, par une équipe, donc, lyonno-ardéchoise. parce que donc, le laboratoire Arcurion, c'est un laboratoire lyonnais qui a une antenne à Jalès, à la commanderie de Jalès, c'est-à-dire à Berrias et Casteljau. Dans la commanderie templière.
C'est là où tu es.
C'est là où nous travaillons, une partie de l'équipe travaille en tout cas. Donc on part sur le terrain, on collecte des données et puis on les traite en partie en Sud-Ardèche.
Donc c'est là où on regarde les données, on les analyse, on les réfléchit,
et oui, parce
on
qu'on
fait
est...
des hypothèses. C'est
oui.
là
Oui, c'est ça, ça, parce que.
Toute la réflexion.
On est sur le terrain pendant finalement assez peu de temps. C'est des missions qui durent un mois et demi, au maximum 2 mois. Et donc, on collecte un maximum de données. Et puis après, ces données, il faut les traiter. Et puis, il faut comprendre ce qu'on a récolté.
Et donc, la bande dessinée, elle fait quand même une belle part au terrain. On est bien dans le désert.
Oui, bah parce que c'est quand même le plus rigolo. Et
plus fascinant, intéressant.
Oui, c'est là, ouais. c'est là où on découvre des choses.
Mm-hmm. Et pourquoi tu as souhaité faire une BD de toutes ces recherches sur le terrain et, et du coup faire découvrir aux lecteurs et lectrices ce travail ?
Eh ben, donc, moi, je suis donc archéologue. Je suis pas chercheur. Je fais partie des métiers d'accompagnement de la recherche. Je suis ingénieur d'études, on dit. Et moi, mon métier, c'est plutôt de faire des plans, des modélisations 3D, des système d'information géographique, enfin, c'est-à-dire de faire d'enregistrer des données spatiales. Et par ailleurs, je suis auteur, autrice de BD. Au départ, j'ai commencé cette activité-là parce que j'avais une histoire à raconter, une histoire assez personnelle, et que j'avais envie de raconter comme ça, parce que j'ai grandi dans la BD. Et puis, ça s'est plutôt pas mal passé et j'ai eu envie de continuer. Et la maison d'édition m'a fait confiance aussi pour de nouveaux projets. Et voilà, j'avais très envie de raconter quelque chose autour de mon travail et autour de mes collègues.
Ah oui. Donc les collègues, ils rapportent les données qu'ils prennent sur le terrain. Mais toi aussi, tu vas dans le désert et sur le terrain.
Oui.
Et toi, tu réfléchis en 3D à ce que... Et moi, je modélise.
Oui, alors voilà, en fait, on modélise le terrain, on modélise l'existant. C'est-à-dire qu'on va utiliser des photos généralement, donc des photos, soit des photos prises au drone, des photos prises, vous le verrez aussi, au cerf-volant. Donc,
ouais.
On utilise des cerfs-volants pour photographier des cerfs-volants. Parce que le drone, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Donc, il y a 15 ans, c'était pas envisageable d'emmener un drone par là-bas. Et puis, il y a certains pays où c'est toujours pas envisageable de rentrer des drones. Donc, donc on a développé des techniques de prise de vue. Enfin, c'est des techniques qui existent depuis longtemps, mais on a poursuivi ces techniques-là, le développement de ces techniques-là, de prise de vue aérienne. Et à partir des photos, on fait ce qu'on appelle de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui va reconnaître les formes et reconstituer la 3D de ce qu'il y a sur le terrain. Donc va faire la 3D du terrain et la 3D des vestiges qui sont sur ce terrain. Et ça nous permet de cartographier tout ça et puis d'avoir des tas d'informations très importantes et très précises.
Donc ça, pour faire ça, toi, tu as les ordinateurs, tu as tout.
C'est ça.
Mais ces grands cerfs volants-là, ils datent de quand ?
Et alors voilà.
Sur le terrain, dans le désert, il n'y avait pas d'ordinateur, je
parlais. Sur le terrain, dans le désert, et ben, en fait, au départ, on ne savait pas de quand ça datait.
Ouais.
Et
juste, tu ne nous dis pas la fin ou la non-fin.
C'est ça.
Non, tu nous dis le début.
Je ne vais pas tout vous révéler.
Voilà, c'est ça.
Mais ces cerfs volants, on se rend compte qu'ils ont été construits par des gens il y a très 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 longtemps. Je vous dirai pas quand parce que ça fait partie un peu du suspense de la BD.
Mais très longtemps. Les Égyptiens ou après quand même?
Bien avant l'Égypte ancienne, enfin l'Égypte classique. Oui. Non, on est sur... oui,
bien avant.
Je vais vous révéler quand même, au moins, on est au néolithique. Là, on est au 7e millénaire avant Jésus-Christ sur les premiers desert kites. Donc, c'est très ancien. Et surtout, on a fait une découverte vraiment extraordinaire qui est que ces kites, ils ont été dessinés. Ils ont été dessinés, ils ont été gravés sur des pierres. Et ces pierres constituent les premiers plans connus au monde. Les premiers plans à l'échelle connus au monde. Et pour des structures qui sont quasiment impossibles à comprendre quand on est au sol. C'est-à-dire que nous, quand on se promène, c'est tellement grand et puis ça épouse tellement le paysage qu'on ne peut pas, on peut difficilement comprendre comment ça fonctionne. Par contre, on le comprend très très bien sur les images satellites parce qu'ils sont visibles sur les images satellites. Mais au sol, on ne peut pas. Donc ça veut dire que les gens qui ont gravé ça, donc au néolithique, ils avaient cette vision-là de la globalité de ce qu'ils avaient construit. Enfin, c'est un peu normal, ils l'avaient construit quand même. Mais en tout cas, ils étaient tout à fait capables de le représenter. Et donc, ça demande une capacité d'abstraction qu'on n'imaginait pas jusque-là.
Et oui. Parce qu'ils l'ont et construit, et dessiné, et reconstruit, Parce qu'il y a un exemple de cerf-volant, mais il y en a un autre. Il y en a beaucoup, beaucoup.
Il y en a 6600 pour l'instant.
Ah ouais.
On a trouvé 6600 kites. Depuis donc, le centre de l'Arabie jusqu'au Kazakhstan. Donc, c'est vraiment un phénomène, le phénomène kite.
Ouh.
Énorme.
Donc la BD nous emmène petit pas à la découverte des kites et de l'équipe qui cherche depuis 15 ans à comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et on ne dira même pas à quoi ça sert.
C'est ça. C'est vraiment...
C'était lié aux animaux, on peut dire ça.
Ou pas.
Ou pas. Je ne l'ai pas dit, donc. Je n'ai pas dit que c'était un rapport.
C'était un chemin de balade. On s'en doute assez vite, quand même.
Oui, ouais. Voilà. Donc ça, et donc on suit les multiples équipes qui font la recherche dans différents pays.
Oui, alors c'est quand même globalement une équipe qui est partie dans plein de pays différents. Ils sont nombreux, parce qu'il y a des spécialistes très différents. Parce que l'archéologie, c'est vraiment ça. Hein. C'est plein de spécialistes avec des petites spécialités, des petits champs de connaissances. Et c'est l'accumulation de ces champs de connaissances qui fait qu'on peut construire vraiment le savoir. Voilà. Et donc, en fait, j'avais vraiment envie de montrer ça. C'est comment le savoir se construit.
Donc, une grande connaissance sur des petits sujets.
C'est ça.
Chacun le sien.
Oui.
Et ça, mis ensemble.
Voilà.
C'est ça. Et ça fabrique la connaissance d'une énigme assez importante.
Oui. Ouais.
Ok. Et toi, tu es partie aussi avec l'équipe plusieurs fois.
Moi, j'étais au tout début de cette BD. J'étais sur des chantiers en Syrie. Mais à cette époque-là, on avait découvert des kites. Il y avait des kites autour du site sur lequel on travaillait, qui s'appelait Raouda. Et donc, ces kites nous intriguaient un petit peu, mais c'était quand même compliqué vraiment de s'y pencher, parce que c'est difficile à fouiller. On ne sait pas quoi fouiller sur ces trucs-là. On ne sait pas c'est compliqué de trouver de l'information vraiment. Et puis bon, ce qui nous intéressait, c'était la cité qui autour de laquelle ces kites étaient construits. Mais ça avait beaucoup intéressé notamment un des membres de l'équipe qui est plutôt géographe et qui comprenait bien que ça avait un rapport avec le paysage et avec la topographie. Et bon, après, moi, personnellement, j'ai changé de laboratoire pendant 10 ans avant de revenir.
Il te manquait un créneau.
Donc, j'ai un gros trou. Enfin, que j'ai suivi.
En fait, tu as eu le début
bientôt.
Du mystère voilà. Et tu as eu
et
presque,
j'ai eu la fin du
presque
mystère.
La fin du mystère.
Voilà. Et donc, après, je suis retournée moi, sur le terrain en Arabie Saoudite avec ces quelques dernières missions. Mais évidemment, entre les deux, j'ai quand même beaucoup suivi cette aventure. Parce que c'est vraiment une aventure.
Et le dessinateur, c'est un partenaire avec lequel tu as déjà travaillé sur
BD? J'ai déjà travaillé avec lui sur une BD sur le textile qui s'appelle Les héros de l'étoffe.
Donc celle-ci, c'est la troisième BD que tu fais?
Celle-ci, c'est la troisième BD que je fais et la deuxième avec Nicolas. Donc Nicolas qui est italien et donc qu'on a pu faire venir sur le terrain, donc en Arabie, 2 années de suite, donc deux fois une semaine. Et je crois que c'était une super aventure pour lui et puis pour nous aussi en fait. Parce que voilà, c'était drôle d'avoir comme ça quelqu'un qui nous observe un peu comme un ethnologue le ferait ou comme un archéologue peut le faire avec les gens du passé. Donc voilà, c'était un bon retour de bâton.
Vous étiez observé en train d'observer.
On était observé, voilà, c'était très chouette.
Et pour le scénario, donc, tu as mis combien de temps pour le réfléchir, pour l'écrire? Et comment tu as fait? Parce que tu disais que tu étais allé une fois sur le terrain et une fois à la fin aussi.
Ouais.
Comment tu as fait
Alors, j'ai beaucoup interviewé mes collègues. J'ai des heures d'interview ou en tout cas, j'ai posé un micro et puis on a discuté du passé et donc ils m'ont raconté beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes notamment.
C'est ça, parce que dans la BD il y a quand même beaucoup de petites anecdotes,
de petites
histoires qui peuvent faire rire et du coup
oui bah c'est parce que c'était montrer aussi le quotidien d'une fouille et puis ben c'est ouais, c'est beaucoup de prises de tête mais c'est aussi beaucoup de super moments et puis en fait c'était montré aussi qu'il y avait vraiment de l'émotion. Alors évidemment on n'est pas dans Indiana Jones, on poursuit pas des nazis tout le temps, parfois quand même, et voilà, donc c'est beaucoup de petits moments du quotidien qui sont finalement assez drôles et puis c'est plein de petites aventures en fait. Et puis plein d'émotions, surtout.
C'est du temps distendu aussi, parce que c'est 15 ans, c'est pas on y va, on trouve tout de suite. C'est donc du temps du quotidien qui fait une petite découverte, et puis peut-être une semaine après, ou peut-être un grand temps après, autre petite découverte.
Il faut se dire qu'il y a eu une vingtaine de missions archéologiques. Donc ça se sent pas forcément dans la bande dessinée, parce que j'ai évidemment rassemblé les trucs, donc c'est peut-être là-dessus que c'est pas complètement fidèle à la réalité. C'est que j'ai un peu ramassé, concentré les missions archéologiques. Donc effectivement, c'est des choses qui sont sur le temps très très long. Et c'est un investissement énorme pour les chercheurs. Oui. C'est vraiment un gros bout de leur vie.
Oui, oui.
Donc,
Oui, parce que pendant 15 ans, ils vivent avec. Y être, pas y être, chercher, comprendre, attendre sûrement des résultats d'analyse plus précis qui ne dépendent pas d'eux.
Et des financements.
Et oui, il y a aussi ça aussi, chercher des financements.
Oui, c'est ça. Ah non, c'est vraiment... Et puis, c'est des tas de rencontres aussi sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très chouette, ouais.
Et sur le terrain, il n'y avait pas une mémoire chez les paysans ou dans la transmission qui parlait un petit peu de « c'est trop loin ».
C'est trop loin, quasiment pas en fait.
Parce que ça n'a pas servi, ça a servi une période et puis ensuite plus.
Et ça a été oublié, ouais. Ouais. Comme beaucoup de choses en fait, ben, les techniques, elles sont oubliées. Il y a quelques témoignages de voyageurs... je crois au 19e, mais c'est pas très précis, on comprenait pas trop comment ça se passait, visiblement c'était pas très concluant, non.
Ok, donc il faut découvrir tout ça dans la bande dessinée, qu'on pourra trouver probablement dans toutes les librairies du coin.
Oui.
Les super librairies.
Tout à fait. Voilà, sinon, il faut juste la demander, et puis ils la commanderont, et puis elle sera là.
On peut aussi aller dans les bibliothèques et dire « j'aimerais trop lire cette BD ». Comme ça, la bibliothèque peut-être la prendra. Est-ce que tu nous parles un petit peu du lab?
Les CDI aussi, il faut demander aux CDI.
CDI, ça c'est dans les collèges-lycées. Ouais. Est-ce que tu nous parles un peu du labo?
Oui.
Arcéorient.
Donc Arcéorient est donc un laboratoire qui est situé à Lyon et qui donc sa spécialité c'est vraiment principalement la préhistoire du Proche-Orient. Donc il y a une cinquantaine de chercheurs qui travaillent dans le labo et avec cette dimension terrain qui est très importante. Et il y a cette antenne à Jalès qui accueille donc les chercheurs du laboratoire lyonnais, qui les accueille parce qu'il y a un hébergement sur place, donc qui les accueille pour un jour, deux jours, une semaine, un mois.
Comme des résidences d'artistes.
Comme des résidences, tout à fait. C'est des résidences de chercheurs. Okay. Et qui vont pouvoir organiser un stage, une table ronde, une session de travail. Et surtout, ils vont pouvoir y faire de l'expérimentation, archéologique. Donc l'expérimentation, ça consiste à retrouver les techniques anciennes en les mettant en œuvre. Donc cette année, par exemple, on a reçu des archéométallurgistes qui ont refabriquer des pointes de flèches en bronze. On a reçu...
Avec l'hypothèse de comment c'était fabriqué.
Voilà, comment c'était fabriqué. Donc, ils ont fait ça avec plein de techniques différentes, avec des moules au sable, des moules à cire perdue, voilà. Et donc, ils retrouvent un petit peu comme ça les techniques. Il y a eu une autre expérimentation autour d'une chèvre et d'outils en silex, donc qui ont un rapport direct avec les kites. J'ai peur un peu de spoiler si je vous raconte tout ça.
Non, raconte pas alors. Mais pourquoi les chèvres et les silex quand même?
Alors pourquoi les chèvres et les silex? Parce que donc une chercheuse, une doctorante qui s'appelle Fiona et qui travaille sur les traces qu'on trouve sur les silex archéologiques. Donc quand on trouve des outils en silex, il y a des traces qui sont vraiment très très ténues et qui se voient bien en microscope et qu'on peut analyser pour savoir à quoi ça a servi et ce que ça a coupé notamment. Chaque trace, par exemple, quand on a coupé du tendon, ça n'a pas laissé la même trace que quand on a coupé du muscle, quand on va...
Donc le silex a peut-être coupé la chèvre.
Et donc voilà, le
silex a coupé la chèvre. C'est moins drôle.
Elle était déjà décédée, cette chèvre.
Et elle a peut-être pas tanné la peau, tu sais.
Si, en fait, elle a tanné la peau. Alors là, par contre, ils ont absolument tout utilisé sur la chèvre. On a mangé la chèvre pendant 3 mois, c'était super. Et vraiment, ils ont fait venir un boucher. Ils ont posé tous ces outils en silex devant lui. Les outils en silex qui ont été trouvés sur les kites. Et ils ont dit, est-ce qu'avec ces outils-là, vous pouvez nous découper une chèvre? Au début, le boucher était un petit peu perplexe. Et puis, assez vite, il a trouvé comment attraper ses outils et à quoi ils servaient. Et en fait, il a été, je crois, lui-même un peu bluffé. Et il a réussi à découper, à trouver vraiment quel outil en silex correspondait à quel outil à lui, enfin,
contemporain.
Et il a découpé entièrement cette chèvre. Et donc, Fiona a pu récupérer les outils en sachant exactement quelle trace correspondait à quelle action. Et donc, elle avait une collection de références, de traces, pour pouvoir ensuite analyser les vrais outils archéologiques et puis savoir à quoi ils avaient servi.
Mince alors, c'est la prochaine BD.
Ouais. Possiblement.
Trop bien.
Je crois que Fiona a surtout un projet de BD elle-même avec sa sœur. Donc, je lui mets un peu la pression en en parlant
ah oui, parce que c'est cool.
À la radio.
C'est passionnant de découvrir l'archéologie, de suivre une enquête archéologique sur si longtemps en BD, pour ceux qui aiment la BD. Mais même si on n'aime pas, on arrive dedans. En plus, les couleurs sont assez claires. Clara nous a fait prendre conscience de ce que les couleurs sont très chouettes. Et donc,
et
ça nous embarque.
Mariama qui a fait les couleurs, qui est aussi italienne.
Si tu nous écoutes, Mariama, voilà. Est-ce que tu voudrais nous parler encore quelque chose, d'ajouter quelque chose?
J'ai
oublié.
Oui, si. Pour les Journées européennes du patrimoine, en septembre, on va faire une grosse journée porte ouverte de l'antenne de Jalès, avec plein de spécialistes qui vont faire plein d'ateliers archéologiques. Wow. Et donc, on vous en reparlera. Et peut-être que ce sera le moment de l'annoncer, parce que je pense que ça va être vraiment chouette. Pour nous, ça sera les 40 ans de l'antenne de Jalès. Ah, ça fait 40 ans qu'il y a des archéologues dans la commanderie de Jalès à Berriès.
Est-ce qu'ils pourraient sortir un petit peu et venir nous parler, ces gens-là? Ce serait trop passionnant.
Oui, ou peut-être...
Faut que tu coordonnes ça.
Peut-être,
ouais.
Ouais, ok. Réfléchir à ça.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Séverine.
Mais de rien.
Merci, Clara.
Merci à vous.
À venir sur Fréquence 7, l'excellente programmation musicale, avec quelques rendez-vous, comme par exemple à 15h, le Telex, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h, Polémix et la voix off, à 20h, Salut à toi, et à 21h, Metal Zone. Au revoir à tous.
Au revoir.